Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
Quand on parle de plantes sauvages comestibles aux urbains que nous sommes, tout de suite arrivent des questions comme « Ah, c'est pas propre, ah, c'est dangereux, ah, qu'est-ce que tu veux nous faire manger ?» Néanmoins, il y a aussi une part d'intrigue, de mystère. Il y a quelque chose qui nous fait « Ah, quand même, si je pouvais manger pour pas cher et sympa, et en plus c'est autour de moi », ça titille notre curiosité. Alors, on est allé poser la question à un spécialiste, en tout cas à quelqu'un qui a fait sa voix des plantes sauvages comestibles. Il s'agit de Timothée Janota, qui est un photographe qui s'est reconverti, qui est une personne très active dans le milieu genevois, qui fait partie d'Alternatiba et qui participe à pas mal de cours certifiés de permaculture et qui anime des sorties de plantes sauvages comestibles. Nous sommes allés avec lui dans la campagne genevoise, à Présy précisément, pour aller découvrir ces plantes que l'on voisine souvent, que l'on délaisse quasiment tout le temps et que l'on aurait tout à fait intérêt à regarder de plus près. Mais avant toute chose, la question de l'auditrice, parce que nos questions des auditeurs aujourd'hui seront qu'une seule question que nous avons reçue. Une personne nous écrit et nous demande comment faire pousser des champignons dans son jardin. Alors avant toute chose, remarquons que cette personne est bien avisée de vouloir en faire pousser, et avant de répondre à comment, nous allons répondre à pourquoi. La première raison, c'est qu'en écosystème non anthropisé, non influencé par l'humain, les champignons sont présents. Ils ont donc un rôle à jouer dans l'équilibre de la vie que vous cultiverez au jardin. Et quel rôle ? Les champignons se nourrissent notamment de matières organiques en décomposition. Ce sont, de ce fait, des concurrents des limaces. Si vous avez un excès de limaces dans votre jardin, c'est peut-être par manque de poules, de hérissons, mais aussi de champignons. Les champignons sont aussi des partenaires indispensables des plantes vertes, des symbiotes qui leur fournissent, grâce à leur réseau extrêmement étendu de filaments, des nutriments autrement inaccessibles. Ces mêmes filaments qui servent de nourriture à une partie de la faunule du sol, les collemboles en raffolent, les champignons sont donc importants. Alors, rassurez-vous, si vous n'en avez pas inoculé dans votre jardin, cela s'est fait tout seul. Les champignons sont partout et leurs spores vont et viennent au gré du vent, de la terre collée sous les semelles ou au gré des campagnols. Mais peut-être souhaitez-vous guider l'évolution de votre terrain vers une production comestible ? Alors, pour ce faire, tout dépend de ce que vous déciderez de cultiver. En effet, les champignons est une appellation générique comme les plantes ou les animaux. On ne cultivera donc pas une pleurote comme une morille. Si vous voulez vous en tenir à une méthode simple, mais un brin hasardeuse, il y a Sepp Holzer, le fameux permaculteur autrichien, qui propose de suspendre à un arbre des champignons dans un sac en toile de jute, la pluie et le vent faisant le reste. Vous pouvez aussi méthodiquement rendre à votre jardin les déchets du nettoyage de vos cueillettes sauvages. C'est ainsi que j'ai trouvé des morilles dans le jardin urbain de ma mère, à des dizaines de mètres du point d'inoculation cependant, et pas tous les ans. Mais on en a trouvé. Pour être un peu plus spécifique, si vous souhaitez commencer une culture de champignons de bois, par exemple, comme les pleurotes, qui poussent sur le bois, nous vous suggérons de vous procurer des chevilles inoculées de mycélium. Ça se trouve en ligne pour une dizaine d'euros auprès de la ferme de Sainte-Marthe, par exemple. Après perforation à la perceuse, vous enfoncez des petits morceaux de bois dans une bûche de feuillus coupée il y a moins de 3 mois. Le bois doit être frais. Plus le bois choisi est un bois dense, plus vos récoltes mettront du temps à démarrer, mais plus elles seront nombreuses et durables dans le temps. Une bûche de chêne peut ainsi fournir une dizaine d'années à partir de la deuxième ou troisième année. Sur une essence moins dense, comme les fruitiers, la production peut commencer au bout d'1 an. Après avoir placé les chevilles, bouché le trou à la cire de bougie pour éviter que d'autres spores s'invitent excessivement dans votre support de culture, il faudra ensuite entreposer vos bûches de manière à ce qu'elles restent à l'ombre et à l'abri du vent pour conserver une bonne humidité, y compris l'été. Il peut être utile de bâcher ou de pailler en été, mais puisqu'on parle de paille, parlons des strophères, et pas strophières comme on entend trop souvent, ou champignons de paille. Eux, ils poussent sur des supports organiques bien morts, mais bien humides. On peut les inoculer dans les bottes de paille, mais aussi, et ça aura notre préférence, dans les mulches de bois broyés et les paillages ombragés. Quelle agréable surprise quelques semaines après de trouver par-ci, par-là dans votre jardin ces quelques bolets oranges, ces presque bolets oranges, car ce sont exactement des bolets, entre vos légumes d'ombre. L'inoculation se fait grâce à du mycélium, trouvable dans les kits de la même ferme de Sainte-Marthe, vendu une vingtaine d'euros. A noter que la culture en kit peut être une très agréable manière de commencer et sera adaptée aux appartements. Sur base de mares de café ou de paille, souvent, ils sont pensés comme de petits jardins et en fin de culture, vous pouvez toujours utiliser le mycélium pour le bouturer dans votre jardin, bien que le mot bouture soit un peu impropre. Enfin, j'ai lancé le mot mori et j'imagine bien avoir éveillé votre intérêt. Sachez que la culture est possible, elle a même été lancée de manière professionnelle dans des serres de Haute-Savoie et plus loin, dit-on. Ces mycoculteurs sont tellement au point que l'emplacement des serres est gardé secret pour éviter les chapardages. Alors la recette de leur culture aussi est tenue relativement secrète, mais les brevets, en tout cas certains brevets étant publics, on peut se procurer la recette. Alors voilà la recette proposée par l'association Urban Farming Guys, qui nous a paru la plus crédible au regard de ces brevets et du cycle du champignon. À vos crayons, braves gens. Passez grossièrement au mixeur 2-3 moris fraîches avec de la farine de blé, des copeaux de bois non résineux et un peu d'eau de pluie pour liquéfier le tout. Puis versez la mixture dans 5 litres d'eau de pluie avec 2 cuillères à soupe de sucre roux et 1 cuillère à soupe de sel fin. Étape délicate, vous allez laisser tout ça 24 à 48 heures à infuser tout en aérant le liquide, avec une pompe à aquarium par exemple. Vous devez éviter que cela fermente. Vous voulez juste amorcer les spores. Le sucre et le sel ont pour fonction, respectivement, de donner une nourriture de base et de limiter la croissance bactérienne. Vous pouvez aussi ajouter du riz cuit, qui séchera moins vite que le bois et donnera plus de nourriture aux spores une fois répandu au sol. L'inoculation se fait au printemps, par simple versement à l'arrosoir dans les zones susceptibles de rester bien humides dans votre jardin. Vous pouvez diluer votre mixture de base à raison d'1 litre de mixture pour 20 litres d'eau de pluie. Récolte l'année suivante en croisant les doigts. Car, comme pour toute culture de champignons, il y a enfin, eh oui, une bonne part de chance. Le mycélium se plaira-t-il ? Les conditions seront-elles bonnes cette année ? Et les suivantes ? Et les arbres du coin accueilleront-ils favorablement la symbiose ? À vous de vous lancer et de voir. Pour terminer, voici la réponse à la question que vous n'avez pas posée. Comment ne pas faire pousser des champignons ? Ou quelles sont les conditions favorables pour rater les conditions défavorables à votre culture, en somme ? L'une d'entre elles est, hélas, une des solutions favorites des cultures bio, le cuivre. Le composant actif de la célèbre bouillie bordelaise qui lui donne sa couleur bleue. Si on l'utilise pour lutter à large spectre contre les champignons de type cloque, mildiou, botrytis ou tavelure, vous pouvez imaginer qu'il sera tout aussi efficace sur vos coprins, mousserons ou potentiels morilles. Une autre manière de ratatiner les mycofilaments, c'est l'excès d'azote. Comme souvent, cela se produit lors des apports d'engrais, qu'ils soient chimiques ou organiques, d'où le conseil de diluer l'urine 10 fois si vous avez décidé d'arroser votre bois broyé. C'est difficile le mot bois broyé. Ou encore d'éviter les engrais coup de fouet fortement chargés en azote. Coup de fouet, bouillie ou pipi, parfois l'excès de limaces est simplement dû à une envie de bien faire, même en bio. We'll be right back.
Sur Couleur FM 97.1, Couleur Terre, Cultivons la vie, nous venons d'entendre John Coltrane au saxophone dans Stellar Region de l'album du même nom.
Et c'est le moment de notre reportage de cette semaine avec Timothée Janota sur les plantes sauvages comestibles. Mettez vos bottes, c'est parti. Timothée, bonjour.
Bonjour Floem.
Alors là, on est en bord d'un chemin en Haute-Savoie et on est arrêté au bord de... Il y a plein de mauvaises herbes, c'est ça ?
On ne parle pas vraiment de mauvaises herbes, mais il n'y a que des plantes dont on ne connaît pas encore l'utilité.
Toi, tu es un spécialiste des plantes médicinales, etc., plantes vertes diverses et variées. Et nous, on n'y connaît pas grand-chose. Est-ce que tu aurais, avant de commencer, des conseils à donner aux gens qui se lancent dans la découverte des plantes sauvages, comestibles ou autrement utiles et qui auraient envie d'aller cueillir?
Je trouve pour si on est vraiment débutant, c'est intéressant de commencer par un stage avec une personne qui s'y connaît. Ça peut être un ami ou des stages organisés pour aussi se rassurer et avoir une première approche de cet univers. Ensuite, je dirais pour les lieux de récolte, on va éviter les bords de routes trop fréquentées pour des raisons évidentes de pollution. On évite aussi les champs qui semblent être cultivés pour tout ce qui est pesticides qui sont assez volatiles. Et on va éviter les zones qui semblent aussi polluées par différentes sources. Ça peut être proche de déchetteries ou ce genre d'endroits qui risquent d'être contaminés. Et donc les plantes absorberont ces différents types de pollution, et en cueillant des plantes sauvages, on essaye de manger des plantes saines.
La première question qui me vient, c'est celle que tout le monde renvoie quand on prend des plantes sauvages, et alors les parasites et les renards qui font pipi sur les plantes, avec l'échinotruque là.
L'échinococose.
Oui, voilà.
On parle souvent de l'échinococose, donc c'est une maladie qui peut être transmise par les renards. Donc déjà c'est uniquement par les selles et pas par l'urine.
Donc il faut qu'ils fassent caca dessus, dit gentiment.
En gros c'est ça, il faut qu'ils aient fait caca sur la plante. Ce qui limite déjà quelque part les risques. C'est quelque chose de beaucoup plus visible, autant par les yeux que par l'odeur parfois sur les plantes. Donc ça limite déjà les risques. C'est au final, je pense que le risque est à prendre en considération, qu'il ne passe pas complètement à la trappe dans notre esprit, disons. Mais voilà, j'estime le risque négligeable étant donné que ça doit être un renard qui a fait ses selles sur la plante. Un renard qui, en plus, doit être infecté par ce parasite, ce n'est pas le cas de tous les renards. Donc, les risques sont relativement modérés, d'autant que si on y réfléchit bien, on a à peu près autant de risques dans un potager. Parce que les renards vont souvent se balader parmi les légumes dans nos potagers. Ce qu'on sait aussi moins, c'est que les personnes qui ont des chiens sont potentiellement beaucoup plus infectées que les personnes qui ramassent des plantes sauvages, parce que les chiens peuvent être porteurs aussi de ce parasite. Et en ayant des chiens, on est beaucoup plus en contact avec ce parasite que si on va simplement ramasser des plantes sauvages.
Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à quelqu'un qui va avec son panier ramasser des plantes sauvages comme ça ?
Éviter les sacs en plastique, préférer les sacs en papier ou en tissu ou simplement le panier pour éviter la condensation et disons une fermentation des plantes ou simplement leur flétrissement qui est visuellement pas très agréable. Prélever uniquement aussi la quantité dont on a besoin, pas la peine de cueillir trop. Cueillir les plantes quand elles sont en quantité suffisamment abondante. On va éviter de, si on n'a qu'un seul exemplaire, disons, de la plante, on va plutôt le laisser en place, lui permettre de se reproduire et on reviendra peut-être dans 2 ou 3 années en espérant qu'il ait essaimé et qu'il soit ressemé plus loin et qu'il y en ait suffisamment. Donc plutôt cueillir quand il y a une abondance de plantes, uniquement la quantité dont on a besoin et éviter de trop piétiner, de trop saccager, détruire les alentours de notre endroit de cueillette. Donc faire attention où on met les pieds.
Ça se nettoie des plantes sauvages ramassées et si oui, comment ?
Bah justement, pour les risques d'échinococcose dont on parlait tout à l'heure, le seul moyen de la détruire, c'est une cuisson relativement prolongée. Après, le fait de nettoyer les plantes, ça peut permettre de, si on ramasse des plantes qui ont des pucerons ou différents petits insectes, on peut éventuellement les faire tremper dans de l'eau vinaigrée. Moi, personnellement, je ne les nettoie pas. Après, certaines personnes préfèrent les nettoyer, ce que je peux comprendre. Donc, à chacun un peu de faire à sa sauce. Sachant aussi que les plantes contiennent beaucoup de bactéries et de petites choses très intéressantes pour notre organisme. Et le fait de les nettoyer, on va perdre une partie de tout ça. Donc moi aussi, pour cette raison, je préfère, d'une manière générale, si elles sont pas boueuses et pas pleines d'insectes, j'évite de les nettoyer.
On y va, on part en balade ?
Partons en balade.
Ça, je reconnais, ça a l'air d'être de l'ortie. C'est de l'ortie ?
Exactement. Bon, c'est une plante déjà que beaucoup de personnes connaissent. Elle a des feuilles un petit peu qu'on pourrait qualifier en forme de gouttes, dentelées, découpées avec des petites dents tout le long, d'un vert assez relativement sombre, vert presque un peu grisâtre, on pourrait qualifier, sachant que ça peut varier aussi en fonction de l'âge de la plante. Au niveau de la hauteur, c'est une plante qui peut pousser, qui disons peut être une 20aine de centimètres, suivant les conditions, des fois elle peut faire même plus d'un mètre, 1m50, surtout quand elle monte en graines plus tard dans la saison. Pour ce qui est de la récolte de l'ortie, on peut préférer les gants pour éviter de se piquer. Surtout si on en ramasse des grandes quantités, c'est plus agréable, on a moins besoin d'y faire attention. Tout en sachant que les poils urticants de l'ortie sont toujours dirigés vers l'extérieur. Donc si on la prend dans le sens du poil, elle ne nous piquera pas. C'est assez commode si on veut en récolter quelques-unes ou si on n'a pas trop peur de se piquer les doigts. En la prenant du bas vers le haut, dans le sens du poil, elle ne nous piquera pas ou très peu. Il y a toujours quelques petites piqûres qui peuvent arriver au bout des doigts, mais rien de bien grave.
Vous êtes prêt à faire l'expérience devant nous ?
Complètement, oui.
Ah bah alors allons-y.
Et une fois qu'on l'a prise dans le sens du poil, on peut même la brosser dans le sens du poil, elle pique absolument pas.
Je suis témoin, monsieur Janota est en train tout simplement de caresser des feuilles d'ortie, c'est j'ai l'impression d'être au cirque. Ok, maintenant qu'on l'a cueilli, qu'est-ce qu'on fait avec ?
Donc ce qu'on va cueillir déjà dans l'ortie, comme dans la plupart des plantes, on va cueillir les parties jeunes. Parfois, on peut voir une différence de couleur, mais ça va être les, disons, 3-4 étages de feuilles supérieures qui sont au sommet de la plante, qui vont être les parties les plus tendres, les meilleures. Après, si on cuit la plante, on peut aussi cueillir des parties un peu plus vieilles qui seront assouplies par la cuisson et donc ne poseront pas de problème. On évite aussi, ça c'est valable pour toutes les plantes, s'il y a des plantes malades, des fois on voit qu'elles ont des taches, ce genre de choses, là on va éviter de les cueillir. Et suivant les plantes, typiquement là on est sur l'ortie, on va plutôt l'accueillir quand elle n'est pas encore en graines ni en fleurs. Donc c'est souvent plutôt au printemps, sauf si l'endroit où elle pousse a été fauché, ça refait des nouvelles pousses qui ne montent pas tout de suite en graines. Donc c'est suivant où on se promène ou si on en a dans le jardin et qu'on fauche régulièrement, on peut en cueillir sur une période plus longue. Et donc voilà, on va récolter les sommités. Ce qu'on appelle les sommités, donc c'est comme je disais, c'est 3-4 étages de feuilles tout en haut de la plante. L'ortie, le plus connu, c'est la soupe d'ortie. C'est souvent un mélange, une base de pommes de terre dans laquelle on va rajouter de l'ortie. On peut aussi la cuisiner de tout un tas de façons, et ça c'est valable pour à peu près toutes les plantes sauvages. On peut en fait l'utiliser comme un épinard. On peut l'utiliser dans des quiches, dans des cakes, on peut les faire cuire vapeur, cuire à l'eau, sauter à la poêle, en faire des gratins. Après, ça a un peu de limite que les recettes que vous avez et votre imagination.
D'accord, donc ça peut venir enrichir quasiment toutes les recettes où il y a du vert dedans.
Exactement. On peut même en faire du pesto, sachant qu'il faut plutôt lâcher très finement. J'ai fait l'expérience de lâcher au couteau, pas suffisamment finement. Ça, il nous rappelle son pouvoir urticant sur le palais, c'est pas très agréable. Donc pour un pesto d'ortie, je conseillerais plutôt le mixeur. Pour les autres plantes qui sont pas urticantes, on peut y aller au couteau sans aucun problème. On pourrait parler, je sais pas si ça se dit, mais de panacée nutritionnelle avec l'ortie. C'est une plante qui est extrêmement riche en fer, en magnésium, en protéines, en calcium, en vitamine C, et j'en passe. Elle est, je dirais que si on devait en consommer qu'une seule, ce serait celle-là, parce qu'elle nous apporte à peu près tout ce dont le corps peut avoir besoin. Et c'est assez commode parce qu'on, quasiment tout le monde la connaît et elle est assez facile à reconnaître. Et on la trouve, et en plus on la trouve en abondance.
Ok, merci, continuons. Alors ça a l'air d'être aussi une grande star, parce que même ça j'en ai dans mon jardin et je le connais bien, enfin ça me dit quelque chose quand même.
Alors là on est sur le plantain lancéolé, qui est une plante très fréquente dans les jardins et les prairies. Pour la reconnaître, elle est un peu en forme de... Elle est en forme de lance, c'est pour ça qu'on l'appelle lancéolée, donc plutôt, disons, effilée et un peu en pointe, avec des nervures. La particularité, c'est qu'elle a les nervures parallèles. Elle pousse plutôt proche du sol, bien que suivant les conditions, elle peut atteindre parfois des dimensions assez impressionnantes. Mais disons qu'en général, les feuilles font une quinzaine de centimètres, je dirais. Le plantain lancéolé, donc dans nos régions, il y a trois principales variétés de plantain. Le lancéolé, on est en train actuellement de regarder, le majeur et le moyen. Le moyen étant celui que je préfère et le moins fréquent malheureusement.
Et du coup, le lancéolé, c'est quoi les différences visuelles ?
Alors donc le lancéolé est en forme un petit peu de pointe, assez effilée. Donc la feuille doit faire en général 2 cm de large à peu près, sur, je disais, une quinzaine de centimètres de long, juste pour donner une proportion. Le plantain majeur va avoir une feuille beaucoup plus ronde, avec une petite, comme ce qu'on appelle le pétiole, une espèce de tige qui retient la feuille, et lui va être en général plus proche du sol. Enfin le moyen, je disais celui que je préfère au niveau gustatif, est lui complètement plaqué au sol. Tous les trois ont la particularité d'avoir les nervures parallèles.
Et qu'est-ce qu'on en fait alors du coup ?
Alors le plantain, c'est déjà un excellent remède contre la plante qu'on a vue juste avant, l'ortie. On peut appliquer le plantain sur une brûlure d'ortie pour calmer la douleur.
Tu le poses comme ça ?
Non, alors l'idée c'est d'en extraire le suc. Donc on peut soit broyer une feuille de plantain entre les doigts avec la main, pour en extraire le jus et ensuite l'appliquer sur la brûlure d'ortie. Ou une autre technique, c'est de le mâcher un petit peu, et ça permet de casser les fibres qui contiennent le suc, et on peut ensuite l'appliquer sur les brûlures d'ortie, je disais, mais aussi sur différentes piqûres d'insectes, que ce soit moustiques, abeilles, guêpes. Ça peut aussi être intéressant sur différentes petites écorchures ou petites coupures. Et en plus de tout ça, il se mange.
Ah oui, c'est bien, ça fait multitâche.
Souvent, j'ai une préférence pour manger toutes ces plantes crues, sachant qu'elles sont toutes extrêmement riches en vitamines et en nutriments. Donc, le plantain, assez facilement, je le découpe, mixé avec d'autres plantes. Ça, c'est quelque chose que je fais fréquemment dans les salades. C'est un petit panel de plantes que j'ai ramassé au cours d'une promenade ou simplement dans mon jardin. Le tout grossièrement haché et ajouté dans une salade. Les proportions, c'est en fonction des goûts. Moi, j'aime bien moitié-moitié pour quand même avoir bien sentir le goût de toutes ces plantes.
Moitié-moitié de quoi ?
Partir sur une base de salades cultivées, au choix. L'autre moitié de plantes sauvages diverses et variées.
Mais c'est pas un peu fort comme goût ? Parce que quand tu me dis plantain ou ortie, enfin, je sais pas, les orties, ça se mange en salade, non ?
On peut. Le pouvoir urticant est théoriquement cassé par la vinaigrette et tout ça. Moi, en salade, je le consomme pas ou extrêmement peu. Je préfère le cuire ou le hacher très menu. Au niveau du goût, c'est vrai que c'est assez fort. Moi, je suis plutôt moitié-moitié, aussi pour bien sentir les saveurs. Après, on peut être un peu plus frileux au début et commencer chacun à son rythme et augmenter progressivement les doses. À voir, c'est vraiment une histoire de goût.
Ouais, donc en fait, tu me parlais de vinaigrette il y a un moment, une seconde. Il faut aussi envisager la salade composée, rajouter des fruits, des trucs, des machins comme ça pour changer un peu le goût. Enfin, je sais pas, ça se trouve, c'est délicieux, je sais pas.
Non, une salade verte, on met toujours une vinaigrette, en tout cas personnellement. Je dirais que ça, je sais pas, c'est peut-être plus une habitude qu'on a, qui est pas forcément, je sais pas sur quoi elle est fondée, mais peut-être pour mieux faire passer les aliments. Du fait de l'huile, ça je saurais pas trop l'expliquer. Mais au niveau du goût, le plantain a plutôt un petit goût de champignon qui est vraiment pas désagréable, voire même très agréable, surtout sur le, comme disait le plantain moyen, qui a, je trouve, un goût plus exacerbé de champignon. Le mieux dans les plantains aussi, c'est ce qu'on appelle les boutons floraux, les petits boutons qui sont pas encore passés en fleurs ni en graines, qui sont encore tout jeunes, prêts à éclore. Qui vont être plutôt noirs pour le plantain lancéolé, plutôt verts pour le plantain moyen ou le plantain majeur, et qui ont l'avantage aussi d'être un peu plus charnus par rapport à toutes les feuilles qui sont souvent présentes quand on consomme des plantes sauvages. Plus charnus et vraiment avec un goût de champignon assez prononcé et très intéressant à intégrer dans les salades ou dans des cakes, dans différentes préparations. Donc les saveurs sont... On trouve un petit peu de tout dans la nature. En général, quand on parle de plantes comestibles, on parle plutôt de plantes qui ont des saveurs bonnes, que ce soit en grande quantité ou d'autres plus en condimentaire. Après, il y a aussi beaucoup de plantes qui vont être comestibles d'un point de vue physiologique, mais qui vont être extrêmement amères ou avoir des goûts désagréables, auquel cas on parle pas, en général, pas de plantes comestibles, même si elles le sont dans l'absolu.
D'accord. À côté du plantain, là, je vois qu'il y a une plante que je connais, s'appelle du trèfle, et il paraît que c'est comestible. C'est vrai ?
Alors, il y a un petit peu deux écoles sur le trèfle. Il y en a qui disent qu'il se mange, d'autres qui disent qu'il ne se mange pas. Moi, perso, je le mange pas particulièrement. Je préfère d'autres plantes de la même famille, à part les fleurs. Les fleurs de trèfle qui ont un petit goût sucré, comme toutes les fleurs, grâce au nectar qu'il contient. Et aussi pour l'aspect décoratif, qui est vraiment aussi une chouette approche avec les plantes sauvages. Tout ce qui est fleurs sauvages peut être vraiment très intéressant pour décorer les salades et mettre un peu de couleur et aussi faire découvrir à des personnes peut-être moins intéressées par cet univers.
Thank you.
Sur Couleur FM 97.1, dans l'émission Couleur Terre, cultivons la vie avec notre équipe de choc, Hélène, Lucie et Floem. Nous venons d'entendre au piano Martial Solal dans Iris That Rainy Day de l'album Improvisations. Il est vrai que l'on attend la pluie pour tous ces plantes sauvages et autres que l'on voit pousser.
Alors là, on est juste à côté d'une plate-bande de choux de chez un maraîcher et tu viens de prendre un truc qui visiblement n'est pas du chou.
Exactement. Là, on est tombé sur de l'épinard sauvage, en l'occurrence le chénopode blanc.
Moi, j'aurais dit du chénopode.
J'entends toujours les deux versions et du coup, de mon côté, j'alterne un petit peu entre les deux, entre chénopode et chénopode. Ça s'écrit chénopode.
Ok, au moins comme ça, on est fixé. Et du coup, alors, ce chénopode, il ressemble à quoi ? Alors que moi, si je dois le décrire, allez, tiens, je vais me lancer dans la tentative de description, on dirait, ça a des feuilles vertes, et non, mais peut-être que toi, tu décriras mieux.
Ça a des feuilles vertes, en effet, avec des petites dents, pas très marquées. En général, c'est plutôt des petites, ça ressemblerait plus à des petites ondulations. C'est une plante qui pousse en général sur des terres qui ont été retournées. J'en trouve beaucoup dans les chantiers. En général, c'est une plante qui aime bien les terres qui ont été retournées. Là, en l'occurrence, on est dans une plate-bande de choux sur laquelle on voit que la terre a été retournée récemment. Et ce chénopode blanc aime beaucoup ce genre de terrain. Donc là, on voit qu'il pousse en abondance au milieu des choux. Donc, c'est une plante qui pousse, qui peut facilement faire comme des petits arbustes. Est monté à 1,50 m suivant les conditions. Une particularité pour le reconnaître, c'est que sous ses feuilles, il a un petit perlage blanc qui s'effrite, disons, quand on y passe les doigts.
Ah, je vais essayer ça. Ah oui, c'est un peu comme du pain fariné.
Ah, on pourrait voir ça comme ça, ouais, comme une petite farine qui s'en va délicatement quand on y passe les doigts. Donc ça, sous les feuilles. On l'appelle aussi patte d'oie, parce qu'il serait censé ressembler à une patte d'oie, ce que je trouve pas forcément toujours très évident. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, les nervures un peu, mais sinon c'est vraiment une oie un peu malade. Hein. Bon, alors ouais. Qu'est-ce qu'on en fait de ce chénopode ou chénopode là ?
Eh bien, c'est comme je disais, c'est un épinard sauvage, donc on peut le cuisiner de la même façon que l'épinard. On va pouvoir le manger en salade. Ou le cuire, le faire en gratin de différentes façons. Sachant qu'en général, il fait pas toujours des feuilles extrêmement grandes. Et quand on le cuit, il réduit beaucoup à la cuisson, comme la plupart des plantes. Donc j'ai plutôt tendance à le manger en salade. Et c'est aussi une plante qui a l'avantage de rester, les feuilles ont l'avantage de rester souples et tendres, ce qui fait qu'on peut les récolter à peu près à toutes les périodes, à n'importe quel âge. Qu'ils soient grands ou petits, on va pouvoir récolter les feuilles tant qu'elles ne sont pas malades. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, de l'ortie qu'on a vu tout à l'heure ou du plantain. Le plantain va avoir tendance à être, comme beaucoup de plantes, très amer en prenant de l'âge, alors que le chénopode blanc, kénopode blanc, va rester tendre toute la saison. Donc le kénopode blanc, c'est plutôt une plante d'automne, de fin d'été. On le trouve pas au printemps. Le plantain et l'ortie, c'est des plantes qu'on va trouver toute l'année.
Allez, on continue, on va voir encore un petit peu plus loin. Loin du micro, Timothée Jeannotta vient de dire « Ah, on peut se faire le pissenlit parce qu'elle est quand même cool ». Alors, pourquoi elle est cool, cette plante?
C'est une plante très intéressante parce qu'elle est entièrement comestible par rapport à d'autres plantes où on va plutôt privilégier les feuilles, les fleurs, la racine. Le pissenlit, donc, on l'emploie beaucoup au début du printemps. Les jeunes feuilles qui n'ont pas encore développé d'amertume sont consommées en salade. C'est une recette traditionnelle. Traditionnellement, les paysans et les familles allaient cueillir les pissenlits quand ils sortaient gentiment de terre pour s'en faire des salades abondantes. Parce que le pissenlit, je pense que tout le monde le connaît. Il pousse un peu partout et parfois en quantité non négligeable. Donc comme je disais, c'est une plante qu'on peut consommer en salade, plutôt quand elle est jeune et plutôt au printemps. Ensuite, elle reste comestible, mais elle développe de l'amertume. Donc voilà, encore une fois, c'est une histoire de goût. Certains vont aimer supporter, pour d'autres, ça va être insupportable. Donc c'est à tester et à composer avec. Ensuite, on peut utiliser les fleurs pour décorer des salades. Les fleurs sont aussi utilisées pour faire ce qu'on appelle le vin de pissenlit, qui est une macération de fleurs de pissenlit avec du sucre, de l'eau, des agrumes. Qui vont fermenter et faire une boisson gazeuse et très légèrement alcoolisée, qui peut être un très bon apéritif fait maison, sauvage et fait maison, pour étonner vos amis. Les fleurs peuvent aussi, comme je disais, décorer les salades. Les boutons de fleurs, donc la fleur qui n'a pas encore éclos, peut être conservée dans du vinaigre comme des capres et être utilisée toute l'année pour parsemer les salades ou différents plats. En apéritif aussi, des petits capres en apéritif, petits pickles au vinaigre. On va aussi enfin pouvoir se servir de la racine, plus étonnant. La racine qu'on va donc déterrer, brosser, faire sécher et torréfier. Donc torréfier, c'est faire chauffer sans faire brûler. On peut torréfier soit à la poêle, soit au four. En utilisant le four, par exemple, si on vient de cuire quelque chose, on enfourne ensuite la racine de pissenlit sans dépenser d'énergie supplémentaire, donc qui aurait été séchée et coupée en petits bouts plutôt et séchée. Et une fois qu'elle a été torréfiée, on va la réduire en poudre et ça va nous faire un substitut de chicorée, étant donné qu'elle appartient à la même famille que cette plante, que la chicorée. Une utilisation qui peut prendre du temps, mais qui est, je trouve, intéressante à essayer au moins une ou deux fois.
En tout cas, les poules ne s'y trompent pas. Dès qu'on leur jette un pissenlit, elles se battent pour te dépiauter ça à vitesse maximale. Le pissenlit, ça doit être une plante excellente.
Et comme son nom l'indique aussi, pissenlit, c'est une plante diurétique. Pissenlit qui peut être lié aussi à sa couleur jaune. Il y a toute une science, disons, qui est liée à la forme et aux couleurs des plantes, ce qu'on appelle la médecine des signatures. Qui, en l'occurrence, pour le pissenlit, c'est la couleur jaune, évoque l'urine et donc est une plante diurétique et détoxifiante.
Ah, bah le tournesol aussi, mais du coup, ça fait faire pipi le tournesol. Ouais, on ira voir ça de plus près une autre fois. Hein. Mais pourquoi pas.
Et c'est, l'air de rien, c'est une médecine qui, au final, s'avère parfois exacte. En l'occurrence, le pissenlit est réellement diurétique. Donc, hasard ou pas, c'est à chacun d'en décider.
Oula, nous arrivons doucement sur un terrain glissant, ce qui n'est pas une raison pour s'arrêter là. Nous pouvons continuer et passer à une plante suivante. Il y en a plein encore en ce début d'automne. Alors là, on s'est déplacé et on est dans des plantes sauvages comestibles, mais on est allé en direction d'un beau montage permaculturel, ou en tout cas qui relève de l'état d'esprit permaculturel, la spirale aromatique, qui constitue un montage de pierres en spirale, ce montage permettant d'avoir des milieux de vie différents pour toutes les plantes qu'on a envie d'y mettre, généralement des plantes aromatiques. Et du coup, tu t'es arrêté devant une plante dont tu m'as dit que c'était de l'achillée, c'est ça ?
Achillée millefeuille, oui. Achillea millefolium, pour les latinistes. Plante que j'affectionne pas mal. Déjà parce qu'elle est très fréquente et facile à reconnaître, ce qui en fait une plante assez intéressante. Elle pousse au ras du sol en petite rosette. Elle est extrêmement découpée. C'est de là que vient son nom, millefeuille. C'est qu'elle fait comme 1000 petites feuilles. Très découpée, plus que la carotte. L'idéal étant peut-être quand même de la reconnaître avec un connaisseur avant de s'en servir. Mais voilà, une plante intéressante d'un point de vue autant médicinal que culinaire. Culinairement, on peut l'utiliser. C'est une plante assez forte en goût. Donc certains préfèrent l'utiliser plutôt comme une plante aromatique, simplement pour relever certains plats. Moi, j'aime assez bien son goût, donc j'ai tendance à pas mal l'utiliser en salade et même parfois à en faire des pestos. C'est une plante qui, au niveau médicinal, a la particularité d'être une plante hémostatique, donc qui coupe le sang. Il suffit de l'appliquer en extrayant le suc.
Donc en mâchonnant ou en l'écrasant, comme tu nous indiquais avec le plantain contre les piqûres d'ortie.
Exactement. Donc voilà, en extrayant un peu le sucre et en l'appliquant sur une coupure, il paraîtrait même sur des coupures parfois assez fortes, assez violentes, elle a vraiment le pouvoir de couper le sang très rapidement, ce qui en fait aussi une plante parfois intéressante pour les femmes qui peuvent avoir des règles douloureuses. C'est vraiment une plante qui est liée au sang, donc même pour des saignements de nez.
Mais alors pour des saignements de nez, on se fiche la plante dans le nez ou enfin...
On peut se mettre clairement extraire le sucre en faisant une boule avec la plante et se le mettre dans la narine concernée.
Eh ben dis donc, si j'avais su que je me collerais des plantes mâchouillées dans le nez aujourd'hui, je sais pas si je serais venu. Bon, et on peut faire quoi d'autre avec cet Achillea millefolium ?
Ce que j'oubliais de dire aussi, c'est que du coup, on l'appelle l'herbe au charpentier, justement parce que dans l'histoire, traditionnellement, les charpentiers, avant de monter faire leur œuvre sur les toits, cueillaient une poignée de cette plante en prévention des éventuels bobos qui pourraient se faire au travail.
Ah oui, là, c'est pas se la mettre dans le nez, ça peut sauver des vies.
Sauver des vies, je pense qu'en situation sans accès à d'autres ressources, elle peut vraiment, elle pourrait sauver des vies, oui. Et elle a dû en sauver plus d'une.
Ça se mange par ailleurs, parce que moi, je suis plutôt gourmand. Je ne suis pas charpentier. Je suis plutôt à boulotter ce que je trouve pour le délice. Ça se mange.
Comme je disais, oui, je la prépare en pesto ou en condimentaire sur différents plats. Apparemment, elle se marie assez bien au poisson aussi. J'ai jamais essayé, étant donné que je ne mange plus de poisson, mais
ouais, moi non plus.
Mais voilà, ça peut être une de ses utilisations. Sachant que c'est une plante très forte au goût, donc certains aiment, d'autres pas. C'est un peu comme toutes les plantes sauvages ou comme tous les légumes en général, ça dépend de chacun.
Ça, c'était l'Achillea millefolium. Voilà qui clôt notre première balade autour des plantes sauvages comestibles. Il y en aura probablement d'autres. Merci beaucoup, Timothée Jonathan, de nous avoir accompagnés en ce début d'automne à la découverte de ce qui peut se manger autour de nous en cette saison.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
De retour en studio avec Hélène et Titane, Floem à la barre. Sur ces questions de plantes sauvages, comestibles, mais aussi autrement utiles, Hélène a des éclairages à nous apporter sur le soin à la terre et le soin aux plantes, notamment en ce qui concerne l'ortie, le plantain. Hélène, qu'est-ce que ça t'inspire, ces plantes-là ?
Alors, ortie et plantain pour l'instant, tu veux?
Oh oui, volontiers. Après, c'était encore d'autres choses sur le chénopode ou chénopode ou trèfle ou achillée, mais vas-y, lance-toi.
Non, il y avait par exemple le pissenlit, parce que les plantes sauvages, elles sont, bon, on peut les manger, etc., mais elles sont aussi un indicateur de notre sol. Et quand il y a des problèmes sous nos pieds, on va dire, dans un jardin en particulier, la plupart du temps, la cause, elle est dans ce qui se passe en dessous. Donc les plantes, en fait, elles vont être indicatrices souvent de pratiques qu'on a eues et qui n'étaient pas adaptées, on va dire. Et donc ça, c'est intéressant. Quand on a beaucoup, par exemple, de pissenlits, beaucoup de plantes de ce type, on sait que le sol est tassé, par exemple. Donc ça veut dire qu'on a eu des pratiques, des outils, des choses qui n'étaient pas adaptées et qu'on a empêché le sol de fonctionner normalement. Puisqu'une terre qui fonctionne normalement, il y a de l'air, il y a de l'eau, ça circule, c'est meuble, c'est... Voilà, c'est pas tassé et toutes les plantes, une diversité de plantes peuvent y pousser et pas juste une. Donc déjà, il y a des plantes qui vont donner des indications de ce type-là. Après, il y a d'autres plantes, par exemple le pissenlit, c'est une plante qu'on va beaucoup utiliser, soit en biodynamie parce qu'on va en faire une fermentation, on va dynamiser, etc. On va la mettre dans le compost, par exemple, en biodynamie. Sinon, en extrait fermenté qu'on va pulvériser, donc je ne sais pas si je donnerai peut-être le mode d'emploi sur l'ortie, mais... En tout cas, avec le pissenlit, on va faire un extrait fermenté. Et au moment où, une fois que ça sera fermenté, on va le diluer et on va le pulvériser sur les plantes. Et ça va servir à stimuler. C'est une plante qui va stimuler la croissance de nos légumes. Donc, qui va leur permettre d'être, d'une part, en meilleure forme. Donc, si on voit qu'on a une plante qui est un peu flagada ou qu'on vient de repiquer, etc., ben, on peut faire des plantes stimulantes. Donc, le pissenlit, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Chacune ayant un rôle très particulier, le pissenlit va plus agir sur le sol, sur ce qui va se passer dessous, l'ortie plus sur ce qui va se passer dans la plante. Chaque plante va être différente, mais toutes les plantes sauvages ont un intérêt aussi en tant que soin de nos jardins, quoi.
Quand tu parles des racines, des pissenlits qui indiquent que le sol est compacté, ça me rappelle ce que je disais en début d'émission concernant certains nuisibles, entre guillemets, qui se retrouvent parce qu'on a des pratiques agricoles un peu de manière particulière, où les campagnols se retrouvent très souvent dans les terrains compactés. Et en plus, ils adorent boulotter les racines de pissenlit. Donc ça va très très bien ensemble. Passer régulièrement avec une tondeuse à gazon, ça va fabriquer des campagnols pour le voisin d'à côté, quoi. Et du coup, on peut se plaindre qu'on a des campagnols dans son jardin, mais parfois, c'est juste qu'on a un terrain très compacté.
Oui, et puis c'est aussi parce que l'homme a détruit les prédateurs du campagnol. Parce que si on tue... Enfin, on a beaucoup, maintenant, on revient un peu là-dessus, mais si on tue les animaux qui le détruisaient, bah forcément...
Ouais, en même temps, les chats, c'est autorisé, non?
Les chats, les campagnols, c'est pas ce qui les intéresse le plus.
Ah mince, ma voisine,
c'est trop de boulot quand même.
Ouais, elle était persuadée qu'il fallait réintroduire les chats dans mon jardin. Je lui dis non, c'est pas là.
Non, c'est plutôt les rapaces, par exemple. Quand j'étais gamine, il y avait des rapaces, moi j'en ai vu une fois ou l'autre, cloués sur les portes de grange, des choses comme ça, quoi. Donc, à partir du moment où on touche à la chaîne alimentaire, forcément, après, on assume les conséquences. Et quand on a des gestes inadaptés, les outils, etc., l'arrosage, par exemple, enfin, des gestes inadaptés au jardin, on en a aussi les conséquences.
Mon beau-père met des perchoirs très élevés pour les rapaces dans ces jardins, ça marche suffisamment. D'autres éléments bio-indicateurs ou en lien avec, puisqu'on a fait le pissenlit, parlons de l'ortie, puisque tu...
Alors l'ortie, parce que l'ortie c'est un peu la plante reine, on va dire, qui est connue depuis l'Antiquité dans les jardins, et on va s'en servir, la plupart des jardiniers connaissent, en font un usage ou un autre, il y en a qui les mettent comme ça au pied dans les trous, par exemple quand ils mettent les tomates ou des choses comme ça. En fait, il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont montré que ce qui était le plus efficace, c'était de le faire en extrait fermenté. Donc ensuite, on va...
C'est ce qu'on appelle le purin.
Oui, mais quand on dit purin, justement, on entend que ça pue. Et en fait, quand on fait un extrait fermenté, d'abord, ça fait plus technique. Ça fait mieux, parce que si on veut se bagarrer...
Oui,
parce qu'il y a une bagarre au niveau national. Alors, je ne sais pas justement si vous connaissez... Moi, je me sers beaucoup du livre d'Éric Petiot. Justement, lui, il a appelé ça purin d'ortie et compagnie. Mais par contre, il y a une association en France qui se bagarre pour que l'usage des plantes soit autorisé légalement. Quoi. Donc si on dit purin, ça fait pareil
ça fait
que
moche.
Si on dit extrait fermenté. Mais oui, on est d'accord, c'est la même chose. Sauf que les extraits fermentés, justement, on apprend, enfin moi, ce que j'apprends aux gens à faire, c'est de prendre de l'eau de bonne qualité, de peser, de pas faire juste prendre des plantes, des orties ou n'importe quoi que ce soit, puis les faire tremper. Mais suivre un certain protocole, on va dire. Et puis que dès que la fermentation est finie, on enlève les orties. On les met par exemple au compost ou on fait ce qu'on veut. Mais on arrête la fermentation, on filtre. Et à partir de ce moment-là, on a On a un extrait fermenté qui est de la qualité qu'on souhaite pour pulvériser après l'avoir dilué, quoi.
Bon, en tout cas, sur ces questions d'usage des plantes, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Notre mail vous est ouvert pour toutes les questions que vous pourrez avoir. contact@radioperma.org, vous trouverez. Okay. Merci beaucoup, Hélène,
merci
pour ces éclairages. Est-ce que tu as des livres sur lesquels...
Alors, là, j'ai de parler de celui d'Éric Petiot, là. Et puis, tout à l'heure, quand je parlais des plantes bio-indicatrices, il y a celui de Gérard Dusserre. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il est cher.
Oui.
Mais voilà, il est intéressant parce qu'il donne justement les informations sur quand vous voyez beaucoup, beaucoup de plantes de tel ou tel type, ben, qu'est-ce que ça vous donne comme information sur la terre qui les porte, quoi.
L'encyclopédie des plantes bio-indicatrices de Gérard Dusserre, oui. Gros pavé.
Oui, gros pavé en plusieurs tomes. Et voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est un investissement. On ne fait pas comme ça quand on est jeune jardinier, mais on peut le faire au niveau d'un jardin collectif, le demander à la bibliothèque qu'il le mette, qu'il soit à disposition à la médiathèque. Enfin bon, en tout cas, c'est intéressant, quoi.
Il ne va pas périmer tout de suite, a priori.
Non, je ne pense pas, non. En même temps que les pissenlits, quoi.
Et si vous cherchez à joindre Timothée Janota, vous pouvez le trouver sur Internet, sur son site www.semeur-cueilleur.com, semeur-cueilleur.com. Il a également un mail, timothee, ça s'écrit comme ça, thee.janota@gmail.com, 06 83 67 32 27. 06 83 67 32 27 si jamais vous avez envie de faire des sorties autour des plantes sauvages comestibles par chez vous, si vous êtes dans le Genevois, où je suis sûr qu'il se déplacera bien volontiers. Il semblerait qu'il soit aussi sur Facebook à semeur-cueilleur. Enfin, en tout cas, une personne ressource sur les plantes sauvages comestibles. Il y en a pas mal dans le coin et on va tâcher d'en trouver quelques-unes dans les mois qui viennent. C'est la fin de cette émission un peu écourtée aujourd'hui. On est dans le lancement, dans le début, on prend nos marques. Titane, à bientôt.
À bientôt, Floem. Merci beaucoup pour ces plantes sauvages. Je vais avoir un œil plus acéré pour les retrouver.
Et surtout une langue beaucoup plus aguerrie pour les goûter.
Oui.
C'est pas la langue acérée.
Merci Hélène.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Pour la prochaine. À bientôt.
Et merci Laurent.
Merci Laurent pour tout ce que tu fais.
Couleur terre, cultivons la vie. Une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.